Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Derrière les lagons et le sable blanc, les Maldives devenues un régime très autoritaire. L'élection présidentielle se tient aujourd'hui dans le pays. Décryptage de Franck Madvon dans un instant. En Iran, après l'attentat qui a fait 29 morts dans le sud du pays, le président Hassan Rouhani est-il fragilisé? Nous entendrons l'analyse de Farhad Khosravar, directeur d'études à l'EHESS, école des hautes études en sciences sociales. François Bayrou se réjouit d'être désormais mieux écouté par Emmanuel Macron, alors que le Modem tient ses universités d'été à Guidel, dans le Morbihan. Le président du mouvement a senti le vent tourner, on l'entendra. Alors qu'à Bordeaux, Philippe Poutou veut maintenir la pression pour sauver l'usine Ford. Nous l'entendrons, le porte-parole du NPA et délégué CGT de l'usine. Mais nous partons tout d'abord aux Philippines, frappées par deux glissements de terrain meurtriers en quelques jours seulement, une semaine après le passage d'un typhon. Une centaine de personnes ont été ensevelies vivantes sous terre après l'effondrement d'une colline très escarpée, gorgée d'eau. Certains habitants piégés continuent d'envoyer des textos d'appel à l'aide. Reportage sur place de Marianne Dardar sur l'île de Cebu.
Le glissement de terrain meurtrier s'est produit à l'aube, au moment où la plupart des villageois se trouvaient encore au lit. Edison Kabatuan, secouriste.
J'ai vu une fille qui dormait avec son jeune frère dans les bras. Malheureusement, ils étaient déjà morts.
15 heures. Alors que les secouristes n'ont remonté aucun survivant depuis hier, le téléphone de Maritoni Corominas, volontaire, s'allume.
On vient de recevoir un message de quelqu'un coincé sous terre.
C'est ma cousine. En fait, ils sont trois, sa maman, son papa et ma cousine.
Depuis deux jours, Paterno Villarin resté sans nouvelles de ses proches. Le glissement de terrain a enseveli les habitants de Naga jusqu'à 15 mètres sous terre.
Ils se sont réfugiés près du réservoir d'eau de leur maison, mais maintenant ils sont coincés et disent manquer d'oxygène.
Je suis de l'équipe de secours. S'il vous plaît, répondez à ce message pour qu'on puisse venir vous sauver. Voilà ce qu'on va faire. On va d'abord tenter de localiser ces personnes avant de creuser, en espérant qu'ils sont encore en vie. Je l'espère vraiment.
Cette nuit-là, les équipes ont retrouvé un corps. Près de 400 personnes sont déployées sur 70 hectares, une zone immense.
Reportage aux Philippines de Marianne Dardar, la correspondante de RFI pour France Culture. Dans un autre archipel dans l'océan Indien, cette fois les Maldives, l'élection présidentielle a lieu aujourd'hui. Loin des images de plages paradisiaques, le pays s'est transformé peu à peu en régime très autoritaire ces dernières années, sous l'impulsion de son président Abdoulaye Yamin, qui brigue aujourd'hui un nouveau mandat. Les explications de Franck Madvon.
Aux Maldives, l'opposition décrit cette présidentielle comme un référendum, un choix entre autoritarisme et liberté. Ce pays aux eaux turquoises, aux décors de rêve, est dirigé d'une main de fer par Abdoulaye Yamin, élu chef d'État à la surprise générale en 2013, un scrutin controversé. Yamin a alors battu le sortant Mohamed Nasheed, premier président élu démocratiquement aux Maldives. Depuis, le despote Yamin fait régner l'ordre, il muselle l'opposition, son rival Nasheed a été contraint à l'exil, il a fait arrêter en début d'année l'ancien président, Gayoum, au pouvoir pendant 30 ans, qui est aussi son demi-frère. Yamin restreint les libertés, encourage les islamistes et aurait tout organisé, selon Human Rights Watch, pour s'offrir cette élection sur un plateau. Les règles du dépouillement des votes ont été modifiées pour limiter le rôle des observateurs indépendants. L'opposition espère encore que son candidat, Ibrahim Mohamed Soli, puisse créer la surprise, mais les condamnations des États-Unis et de l'Union européenne n'ont eu aucun effet sur la politique répressive d'Abdoulaye Yamin.
Franck Madvon pour France Culture. La Tanzanie commence à enterrer ses morts trois jours après le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria qui a fait 218 victimes selon un bilan encore provisoire. Le pays a décrété quatre jours de deuil national. Nous irons sur place avec notre correspondant au journal de 10h sur France Culture. Après l'attentat qui a fait 29 morts hier et une soixantaine de blessés dans le sud de l'Iran, attentat revendiqué par le groupe État islamique, le président Hassan Rouhani promet une réponse terrible. Cette attaque est survenue un peu plus d'un an après les premiers attentats revendiqués par Daesh dans le pays. En juin 2017, des hommes armés, des kamikazes, avaient attaqué le parlement et le mausolée de l'imam Khomeini à Téhéran, faisant 17 morts et des dizaines de blessés, alors que le président Rouhani est déjà pris en étau entre modérés et conservateurs, la colère liée à la crise économique et les relations très tendues avec Donald Trump sur la question nucléaire. Quelle est sa position aujourd'hui dans le pays? Eh bien, il reste encore l'homme fort, selon Farhad Khosravar, directeur d'études à l'EHESS et chercheur au Centre d'analyse et d'intervention sociologique.
Je crois qu'il va y avoir du côté de des forces de l'opposition, les conservateurs, les principalistes, une tentative pour le remettre en cause. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que les choses vont se décider. C'est plutôt au niveau du guide suprême. Je pense que c'est là où la décision ultime va tomber. Or, Rouhani, ces derniers temps, a montré vraiment patte blanche au guide suprême. Je pense que ce serait difficile de le déloger, d'autant plus que les alternatives ne sont pas très nombreuses. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une attaque de cette nature. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu aussi au Parlement iranien. Il y a eu aussi un mausolée de l'imam Khomeini il y a un an. Je veux dire, cette attaque ne me paraît pas, du moins a priori, étant de nature à remettre en cause la présidence de Rouhani. Personnellement, je serais enclin à croire qu'on n'ira pas jusque-là, du moins pour le moment.
Les propos recueillis par Margot Steve. Le président Rouhani a accusé hier les pays arabes du Golfe, soutenus par Washington, de fournir un appui financier et militaire à des groupes de l'opposition iranienne issus de la minorité arabe dans la région d'Avaz, où l'attaque a eu lieu. En parallèle, les ambassadeurs du Danemark, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont été convoqués hier à Téhéran, l'Iran qui les accuse d'abriter dans leur pays des opposants iraniens. En Syrie, le Front National de Libération, qui rassemble plusieurs formations rebelles combattant sous la bannière de l'armée libre syrienne dans le dernier bastion insurgé, le Front National de Libération a déclaré hier qu'il prendrait part aux efforts diplomatiques de la Turquie dans la province d'Idlib, mais qu'il ne rendrait pas les armes. En France, le volet social est arrivé, selon le président du Modem, François Bayrou. Il l'avait demandé à plusieurs reprises à l'application du fameux « en même temps » à son allié Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, on s'en souvient. Mais les dernières sorties médiatiques d'élus Modem et la candidature surprise en opposition à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale ont eu leur petit effet, selon donc François Bayrou. L'exécutif les a enfin écoutés.
C'est vrai que la période précédente a été plus marquée par les réformes à destination économique. Et il se trouve que depuis la rentrée, en deux occasions, l'annonce et un grand discours sur la lutte contre la pauvreté en France et un plan santé, on a deux affirmations majeures du volet solidarité et attention à ceux qui méritent qu'on les aide. Le mouvement dans la majorité qui, depuis le début, a dit « attention, il faut faire ça, il faut s'occuper de ce sujet », c'est nous. Vous avez vu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale qu'on a réuni beaucoup de voix pour porter ce message-là. Et on a bien fait de le faire entendre. Et je suis sûr que ça a été entendu. En tout cas, il y a des messages nombreux qui disent que ça a été entendu. Mon sentiment, c'est qu'on se fait entendre, non pas parce qu'on demande à être entendu, mais parce qu'on dit des choses fortes. La politique, on ne supplie pas, on s'impose.
François Bayrou au micro d'Adrien Toffolet, envoyé spécial à Guidel dans le Morbihan aux universités du Modem. Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Bordeaux hier pour la sauvegarde de l'usine Ford de Blanquefort à l'appel de la CGT et de la CFTC. La veille, le ministre de l'économie était venu les assurer qu'un repreneur, le belge Punch, négociait avec le constructeur américain. Mais les garanties en matière d'emploi et de carnet de commandes restent encore trop floues. Philippe Poutou, porte-parole du NPA et délégué syndical chez Ford, délégué CGT, compte maintenir la pression.
La clé de la reprise, c'est Ford en réalité. Hein. C'est à eux de lâcher l'argent qu'il faut pour assurer une reprise correcte et c'est à eux de laisser de l'activité qui permettrait une période de transition. Donc le premier problème, c'est Ford. Après, nous, on essaie d'exercer la pression sur les pouvoirs publics et sur l'État parce qu'on sait qu'eux, par leur intervention, ils peuvent à leur tour mettre la pression sur Ford et faire en sorte qu'on arrive à déboucher sur quelque chose de sérieux et puis des emplois qui soient sauvés. Donc on est là-dessus. Mais évidemment que derrière, il y a Punch et on n'entend pas laisser Punch faire ce qu'il veut dès qu'il reprend l'usine, s'il la reprend. Donc de toute façon, ça sera dans un second temps. Si jamais il y a reprise, il y aura une résistance par rapport aux volontés de Punch, on imagine en tout cas. Donc de toute façon, là aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on est les premiers concernés, c'est notre emploi qui est en jeu, c'est à nous d'agir, à nous d'intervenir, à nous de nous organiser et d'essayer de résister le plus possible. Et plus on fera de bruit, plus on dénoncera la fermeture de l'usine, plus on dénoncera les profits de la multinationale et l'argent public a été absorbé par la multinationale, plus on mettra en porte-à-faux les pouvoirs publics par rapport à ça, et plus dans tout ça, on espère en tout cas sauver l'activité sur l'usine. Ukraine.
Philippe Poutou au micro de Stéphane Iscock. Un temps séparé aujourd'hui sur le territoire entre du soleil au nord et non, du soleil au sud pardon et de la pluie sur le nord. Température agréable aujourd'hui avec 13 à 27 degrés ce matin, cet après-midi 14 à 30 degrés du nord au sud.